Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
Vous êtes en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes, enchantée de vous retrouver. Alors dimanche 1er mars, c'était la journée mondiale des herbiers marins. Alors nous, au bord de la Méditerranée, on sait ce que sont les herbiers marins, mais on verra que c'est peut-être pas partout pareil. En tout cas, avec un peu de retard, on s'y met aujourd'hui. Et bien sûr, en Méditerranée, c'est un sujet qui fait partie depuis longtemps de nos préoccupations de protection du milieu. Et pour en parler, nous avons avec nous Muriel Baron, qui est directrice du pôle protection de l'océan de la Fondation de la mer. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Alors, dites-nous deux mots d'abord sur ce qu'est la Fondation de la mer, puisque c'est un peu le lieu que vous avez rejoint.
Oui, alors la Fondation de la mer a fêté ses 10 ans cette année, et notre rôle c'est de protéger l'ensemble des écosystèmes marins, des espèces marines, et aussi de lutter contre les pollutions à travers un certain nombre de programmes un peu partout dans le monde.
Alors, en fait, moi, je connais la Fondation de la mer de longue, longue date, mais la dernière rencontre que j'ai eue avec vous, c'était à l'UNOC. Nous étions à Nice et finalement, vous aviez organisé en tant que Fondation de la mer pas mal de rencontres avec les journalistes.
Oui, c'était un temps fort pour parler de l'ensemble des thématiques et des grands enjeux de l'océan. Donc, c'était vraiment un momentum très important qui a permis de regrouper énormément d'acteurs à ce moment-là. Donc voilà, l'UNOC, c'était le moment clé de l'année 2025, année des océans.
Alors, vous avez vu, c'est gagné. BBNJ est entré en vigueur.
Oui, on progresse. On progresse heureusement sur pas mal de sujets.
Alors, donc la protection de la haute mer, ça y est, c'est fait. Alors, vous me disiez que vous n'aviez pas une formation, enfin, quand on a un peu discuté toutes les deux, que vous n'aviez pas forcément une formation de biologiste ou de océanographe, et que vous aviez rejoint la Fondation sur un coup de cœur. Parce que qu'est-ce que fait la Fondation ?
Alors oui, moi j'ai rejoint la Fondation à ses débuts et l'objectif c'était de monter un certain nombre de programmes d'action et d'action de terrain pour avoir un impact vraiment réel et concret sur les écosystèmes, sur les espèces et pour lutter contre les pollutions marines. On a commencé avec un programme sur la lutte contre la pollution plastique et puis après on a lancé différents programmes sur la protection, l'étude, la restauration d'écosystèmes marins et la protection d'espèces marines emblématiques, les cétacés, les raies, les requins, les tortues, les phoques et bien d'autres.
Bon, on va avoir sans doute l'occasion d'en parler. Alors aujourd'hui, quand même, on se rencontre pour parler des herbiers marins. Alors, est-ce que vous pourriez nous définir davantage qu'est-ce qu'on appelle un herbier marin et puis à quoi sert-il ?
Oui, alors il faut s'imaginer une prairie sous la mer. C'est vraiment quand on a la chance de pouvoir faire du palmastuba, on s'immerge et on est face à une prairie. Une prairie qui est habitée par...
Donc, en fait, pardon, je coupe là. On n'a pas besoin de savoir plonger très profond. On est sur... Vous venez de dire masque et tuba, donc on est sur une petite profondeur.
Oui, tout à fait. On peut découvrir les herbiers marins et les herbiers de Posidonie, notamment en Méditerranée, sans avoir à faire de la plongée sous-marine. Il se situe à des profondeurs jusqu'à 40 mètres. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert. On peut en surface découvrir la beauté de ces herbiers et je vous encourage à mettre un masque et aller visiter cet écosystème à part entière. On est un peu comme au-dessus d'une vraie prairie en montagne. Il y a énormément d'habitants et on peut tout à fait s'immerger pour découvrir cet habitat extraordinaire.
Alors, on est dans des grandes herbes vertes.
Oui, en fait, par exemple, la Posidonie en Méditerranée, c'est une plante marine, donc c'est une plante qui fait des fleurs et des fruits. Et donc, elle est composée de rhizomes qui sont un peu des racines et avec des grandes feuilles. Et à une certaine période de l'année, ces feuilles s'échouent sur les plages pour former des banquettes, ce qu'on appelle les banquettes de Posidonie. C'est des amas de feuilles marron qui ont un rôle de lutte contre l'érosion très importante.
Donc, ah oui, c'est ça. C'est les, en fait, c'est les herbes vertes qui ont été remises sur les strands et qui ont subi le soleil, enfin qui ont séché.
Voilà, c'est vraiment un phénomène naturel et c'est de toute façon très bénéfique pour l'état de santé de la plage et de tout l'écosystème, aussi de la dune qui va être derrière. Et d'ailleurs, on a un programme qui permet d'étudier la connectivité entre l'herbier sous l'eau, la banquette et la dune qui est derrière la plage. Donc vraiment, c'est des écosystèmes qui fonctionnent ensemble. Et c'est intéressant encore de comprendre ce fonctionnement. Il nous reste plein de choses à découvrir.
Alors, je suppose que ces herbiers marins sont différents entre, par exemple, la Méditerranée, la Bretagne. Et puis, vous travaillez, j'ai vu, sur des programmes qui vont même jusqu'en Baltique. Donc, je suppose que ce ne sont pas les mêmes herbiers.
Voilà, c'est pas les mêmes espèces. Donc en Méditerranée, on a l'emblématique Posidonie, mais il y a aussi la Cymodocée qui est un petit peu moins connue. Après, en mer Baltique, ça va être des herbiers de zostère. Et en fait, il y a un nombre d'espèces, je crois que c'est 70 espèces d'herbiers différents. Donc il y en a des très connus, comme la Posidonie, et d'autres qui sont beaucoup moins connus. Et comme on travaille aussi sur les territoires d'outre-mer, voilà, on couvre un large panel d'herbier et notre terrain de jeu est très diversifié.
Alors quand vous dites zoosphère, c'est quoi ?
C'est des herbiers, c'est des herbes marines aussi, c'est un peu comme la Posidonie, mais c'est une autre espèce.
Mais c'est une algue, de la même manière ?
Non, c'est une herbe marine.
Une herbe marine. Vous faites une distinction donc entre les algues et les herbes ?
Oui, tout à fait. Les herbes marines, en fait, elles fonctionnent un peu, voilà ce que je disais tout à l'heure, elles font des fleurs et des fruits. Par exemple, une année en Méditerranée, il y a eu de très fortes chaleurs, on a connu une canicule marine importante, et il y a eu une floraison massive de l'herbier de Posidonie, ça a généré un très très grand nombre de fruits. Ces fruits, ça ressemble à des olives.
C'est si gros que ça. Ah, oui.
Et ça nous a permis de développer d'ailleurs des nouvelles techniques de restauration. Cette émergence de fruits en très grande quantité.
Ah oui, parce qu'on peut, vous les avez ramassés donc.
Voilà, il y a eu une opération de collecte de ces olives de Posidonie. Et après, on a testé une nouvelle technique avec un de nos porteurs de projet pour voir si c'était opportun de profiter de ces floraisons massives et de cette production de fruits pour tester des nouvelles techniques de transplantation et de restauration dans des zones où on a limité la pression, parce qu'on ne peut restaurer que des zones où on a levé la pression anthropique, quoi.
Alors, donc en Bretagne, ce que nous connaissons, le Goémon par exemple, ou le Varech, n'a absolument rien à voir avec les herbiers marins. Et est-ce qu'il y a des herbiers marins aussi en Bretagne ?
Oui, il y en a. Il y en a notamment dans la rade de Brest, ça va être la zostère. Mais oui, c'est différent des algues. Après, on a aussi des forêts sous-marines d'algues. Et nous, on travaille par exemple sur les grandes algues brunes, qu'on appelle des laminaires ou des kelp. Et ça, c'est encore, d'autres écosystèmes qui sont tout aussi intéressants et tout aussi beaux aussi.
D'accord. Alors, vous avez abordé un petit peu le sujet. Vous disiez que la France avait de grandes responsabilités puisqu'elle abrite beaucoup d'écosystèmes via les DOM notamment. Donc, on peut dire que on est un peu dans des programmes un peu différents. C'est surtout, on connaît surtout dans les DOM les problèmes liés aux coraux.
Oui, en fait, on a lancé en 2021 un vaste programme avec l'Initiative française pour les récifs coralliens. C'est un programme qui s'appelle SOS Corail et qui s'intéresse aux herbiers et aux coraux et aux mangroves. Voilà, c'est trois écosystèmes qui fonctionnent en connectivité sur les territoires d'outre-mer. Et l'objectif de ce programme, c'est de financer des projets, différents types de projets sur les territoires d'outre-mer. Et jusqu'aux terres australes françaises où on a des programmes de surveillance, notamment des herbiers.
Mais alors, les herbiers que l'on trouve dans les DOM n'ont rien à voir avec les sargasses.
Oui, non, ça, c'est pas la même chose. Effectivement, des sargasses, c'est un autre problème. Lutter contre les sargasses, il y a des solutions aussi. Par exemple, les sargasses, ils vont davantage toucher les mangroves. Ça va avoir un impact important sur la croissance des palétuviers, ce genre de choses. Mais c'est loin du sujet des herbiers.
Et alors, les herbiers, en fait, dans les DOM, ça ressemble à quoi? Si on compare aux posidonies qu'on connaît?
C'est un peu le même principe, et c'est des écosystèmes qui sont extrêmement importants pour un certain nombre d'espèces, notamment les tortues marines. Les tortues viennent s'alimenter dans l'herbier, et donc c'est comme des prairies sous l'eau, hein, c'est vraiment, il faut avoir cette image-là. C'est des zones d'alimentation pour énormément d'espèces marines, et les tortues notamment, ou les dugongs, sont friands de ces écosystèmes et de ces habitats.
Alors, tous ces animaux sont tout à fait, vous sont bien connus. Mais par exemple, ici, on ne sait pas exactement. Enfin, les tortues, je suppose quand même que tout le monde sait ce que c'est. Mais les dugongs, par exemple, sont un peu encore mal connus.
Oui, on n'a pas tous la chance d'avoir croisé un dugong dans sa vie. Il faut s'imaginer comme une vache qui vient brouter la prairie. Ça ressemble un peu à ça. C'est des animaux qui sont massifs et qui malheureusement font l'objet de beaucoup de pression aussi et de braconnage notamment. On a des zones en Nouvelle-Calédonie où il y a encore du braconnage de dugongs et les lamantins aussi.
On en a en Méditerranée des dugongs, parce que moi j'en ai vu. Oui, d'accord. Parce qu'à Mayotte il y en a maintenant, mais en Méditerranée, non, il n'y en a pas. La mer n'est pas assez chaude.
Oui, non, c'est pas leur zone.
D'accord. Alors, sur tout cela pèse bien sûr un certain nombre de menaces, et c'est pour ça d'ailleurs que la Fondation de la Mer s'en préoccupe. Alors, les menaces, je suppose, sont à peu près les mêmes que celles qui menacent aujourd'hui toutes les espèces océaniques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, il y a différents types de menaces. Il y a vraiment la pression anthropique et notamment l'arrachage mécanique à travers l'ancrage ou certains systèmes, certains engins de pêche aussi qui vont dégrader l'herbier.
Ça a été une des premières actions qui ont été menées par les organismes de protection. Essayer de trouver. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre justement ces ancrages sauvages?
Alors, il y a plein de solutions. En fait, quand vous êtes en voiture, vous ne vous garez pas n'importe où. Et c'est un peu la même idée quand on est en bateau. C'est-à-dire que quand on met son ancre, il faut réfléchir à l'impact que ça va avoir. Et l'idée, c'est de sensibiliser les plaisanciers à travers des outils. Hein. Il existe des applications comme Donia qui cartographie la localisation de l'herbier en Méditerranée, par exemple. Donc la sensibilisation, le fait de mettre en place des solutions pour que les plaisanciers soient au courant de quelles zones sont autorisées pour l'ancrage et d'autres ne sont pas. Et après, on peut aussi organiser les choses. Il y a des systèmes d'amarrage qui sont écologiques où les bateaux viennent s'accrocher sans abîmer l'herbier qui est en dessous. Donc c'est beaucoup de travail de sensibilisation.
Leur ancre n'arrache pas.
Pour faire comprendre aussi l'importance de ces écosystèmes.
D'accord. Alors, problème de température, je suppose aussi, puisque la Méditerranée est un des hotspots sur le plan climatique. On sait que la mer s'y réchauffe plus vite qu'ailleurs.
Oui, alors c'est sûr que le réchauffement climatique et l'intensification des tempêtes a un impact important sur les herbiers marins. Il faut s'imaginer que les herbiers marins, en fait, ça couvre une petite partie de l'océan. C'est moins de 0,2% du fond océanique. Ça représente 300 000 km², donc c'est très peu. Mais par contre, chaque année, on perd l'équivalent de 7%. Donc c'est comme un terrain de foot toutes les 30 minutes. On perd de la surface d'herbier. Donc il y a des choses à faire sur lesquelles on travaille évidemment, mais c'est sûr que la partie intensification des tempêtes et réchauffement climatique et changement de la nature de l'océan, ça c'est des choses sur lesquelles c'est compliqué d'intervenir. Après, en Méditerranée, l'herbier est plutôt résilient et grâce à toutes les actions qui ont été mises en place, en Méditerranée française, on est sur des niveaux d'état de santé qui sont plutôt bons maintenant. Donc il y a toujours de la pression et il ne faut pas lâcher la vigilance, mais en Méditerranée française, ça va mieux, ça va beaucoup mieux qu'il y a 30 ou 40 ans.
Alors, c'est d'après ce que vous expliquez, donc, on est en bordure de la côte avec les herbiers marins. On n'est pas au large, hein. C'est essentiellement la bordure. Et ces herbiers marins jouent un rôle, je suppose, aujourd'hui, d'autant plus important qu'on parle de montée des mers.
Oui, alors en fait, les herbiers marins, on ne s'en rend pas compte parce qu'ils sont loin de notre regard, mais ils apportent énormément de services. Déjà, c'est un puits de carbone fabuleux, c'est autant que les forêts en termes de captation du CO2. Et puis, bah, c'est des réservoirs de biodiversité extraordinaires. Ça joue le rôle d'alimentation, on disait, de nurserie pour les bébés poissons, les crustacés.
Et alors, aussi, justement, parlons-en un petit peu. Je vous coupe deux secondes parce qu'on a notamment dans les tantos des espèces qui sont spécifiques des étangs, enfin qui sont devenues assez rares hein, et qui sont en train de proliférer un petit peu plus dans les herbiers.
Ah oui, oui, c'est tout à fait. Les tantos, c'est un hotspot aussi de biodiversité. C'est mal connu, mais oui.
Alors, on y trouve notamment des hippocampes.
Hein. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres espèces encore dont il faudrait parler, que l'on retrouve dans les tantos et qui,
En fait, il y a énormément de poissons qui naissent dans ces étangs, dans ces lagunes, et donc qui alimentent toute la Méditerranée.
Les dorades, par exemple.
En bébé poisson, donc c'est vraiment des havres de biodiversité qu'il faut à tout prix protéger.
D'accord. Alors, donc, je vous ai interrompu, vous étiez en train de nous expliquer en quoi ces herbiers protègent les côtes.
Oui, en fait, c'est pour dans un contexte de montée des eaux et d'érosion importante du littoral, on le voit à travers toutes les semaines hein, dans l'actualité. Les herbiers jouent un rôle conséquent pour casser la force des vagues et casser la force de la houle. Donc, ils permettent de limiter l'érosion et c'est pour ça que les communes qui font le choix de préserver la banquette de Posidonie ont tout compris. C'est vraiment notre atout pour lutter contre l'érosion et on le voit bien quand il y a des tempêtes, la tempête vient s'abattre sur ces banquettes qui permettent de retenir le sable, en fait. Donc, c'est très important.
Alors, comment vous les avez sensibilisés ?
Alors, nous, le travail de sensibilisation des communes, il est très long et il prend du temps. Mais il y a aussi le grand public qu'il faut sensibiliser parce que on a toujours un peu des remarques de gens qui disent « Oh, il y a des algues », alors que ce ne sont pas des algues, qui trouvent ça dégoûtant et qui préféraient avoir une belle plage de sable sans rien dessus. Et il faut leur expliquer qu'une plage de sable où il n'y a rien dessus, où il n'y a pas de laisse de mer ni de banquette de Posidonie, c'est une plage morte. Et qu'en fait, cet écosystème est extrêmement important pour assurer la vie et assurer la continuité de la biodiversité marine. Donc, il faut à tout prix laisser la laisse de mer sur les communes, laisser la banquette de Posidonie. Il faut faire comprendre aux gens que c'est important et qu'une plage sauvage, c'est une plage avec de la laisse de mer et de la banquette de Posidonie. Une fois qu'on a enlevé les déchets, bien sûr.
Il y a des communes qui font ça très bien. Par exemple, à Metz, ils ont ouvert des petits chemins dans la Posidonie pour que justement les touristes mal informés, les Parisiens de passage qui n'aiment pas forcément mettre leurs pieds dans les Posidonies, puissent passer sans les abîmer. Et du coup, le reste de la Posidonie reste parfaitement protégé.
Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et heureusement, il y a des communes qui montrent l'exemple et qui montrent ce que ça peut donner qu'une plage sauvage. J'ai l'exemple de Ramatuel aussi, avec la plage de Pampelonne qui est emblématique. Il y a un très bel effort qui a été fait sur la renaturation de certaines parties de cette plage. Et on a des espaces sauvages. Et qui sont
renaturation, ça veut dire quoi ?
Comment ?
Renaturation, ça veut dire quoi quand vous employez ce terme ?
C'est-à-dire qu'il y a eu un aménagement en fait, du flux touristique, parce que c'est des plages qui sont très fréquentées l'été, donc il faut canaliser le public pour qu'il ne marche pas sur le cordon dunaire, qu'il y a des œillats qui ont été replantés. Vous voyez, c'est des actions pour faire en sorte que l'accueil du public se fasse dans des bonnes conditions sans qu'il y ait de dégradation de l'écosystème et qu'on puisse concilier toutes les activités, en fait.
Alors, vous travaillez, j'ai vu, avec de nombreux autres pays, bien sûr, puisque c'est une des caractéristiques des questions environnementales, c'est il n'y a pas de frontières. Et donc, vous avez notamment sur la Méditerranée des programmes qui sont liés à l'Espagne. Alors, vous venez de parler de Pamplune, mais vous avez aussi des programmes qui sont liés à l'Italie, à la Grèce, je suppose aussi.
Oui, le programme Posidonie de la Fondation de la Mer s'est étendu. Donc, on a commencé par travailler sur les Bouches-du-Rhône, la Corse, les Alpes-Maritimes, le Var. Et depuis quelques années, on a créé une coalition avec d'autres fondations européennes pour étendre l'action en Italie, et notamment en Sardaigne, à Malte, en Turquie et même en Grèce. Donc maintenant, voilà, on est sur un programme d'ampleur au niveau européen. Voilà, c'est une action qui permet d'avoir un impact démultiplié et aussi de comparer les protocoles d'intervention sur les actions de restauration d'un pays à l'autre. Voilà, ça apporte de l'échange de bonnes pratiques et énormément de choses positives.
Alors, vous venez d'évoquer là un certain nombre de pays de la rive nord de la Méditerranée. Est-ce que la rive sud est concernée également par les mêmes problèmes ?
Oui, il y aurait beaucoup de choses à faire aussi sur la Méditerranée du Sud. Après, pour le moment, on n'a pas encore développé d'action dans ces zones, mais oui, ça aurait un sens de le faire également.
Ils ont aussi des herbiers.
En France, on a développé énormément de moyens pour protéger l'herbier. Et il y a tout un arsenal juridique qui existe pour justement maîtriser la diversité des usages et que tous les usagers de la mer respectent cet écosystème-là. Donc, il y a des choses à faire, évidemment, au-delà de nos frontières.
Alors, est-ce que les programmes qui s'annoncent aujourd'hui, quels sont-ils d'abord ? Et puis, vous vous donnez quoi comme objectif exactement ?
On a commencé le programme de travail sur les herbiers en 2022. Et donc, l'idée, c'était vraiment de tester différents protocoles de restauration de l'herbier, c'est-à-dire que quand l'herbier a été arraché, soit par de l'ancrage, soit par des tempêtes, on récupère les faisceaux, et donc c'est une sorte de bouture, en fait, qu'on va pouvoir replanter avec différentes techniques. Donc, on a testé une technique en Corse, dans des sortes de cages en métal sur lesquelles on coince les boutures entre des rochers. Après, il y a d'autres utilisations d'autres systèmes avec des sortes d'agrafes. En fait, on coince la racine qui est le rhizome dans des agrafes et on va replanter comme ça en faisant des sortes de damiers un peu sur le fond marin à différentes profondeurs.
C'est un travail de titan. On vous imagine avec votre agrafeuse et vos petites herbes là.
Oui, c'est fait par des plongeurs sous-marins et par des biologistes. Donc, c'est sûr que c'est un travail de longue haleine, mais ça porte ses fruits et ça permet de, dans les zones qui ont été dégradées et qui sont maintenant protégées par des lois ou par ce qu'on appelle les ismels, ou alors en Italie, par exemple, sur des zones où il n'y a pas de bateaux qui ancrent parce que c'est des zones de natation, enfin réservées pour pour la baignade. Donc sur ces zones-là, on peut intervenir et réparer l'herbier qui a été dégradé. Et maintenant, on est sur un système qui fonctionne bien. On est sur des changements d'échelle en termes de surface qui deviennent intéressants.
Et là maintenant, vous avez planté. Donc on a vu, il y a déjà deux systèmes de plantation. Soit vous avez planté des graines, puisque vous nous avez expliqué au départ que vous aviez ramassé des graines, et éventuellement, donc ça a été planté comme un plant. Et puis deuxième méthode, c'est une espèce de bouturage, puisque voilà. Avec un bouturage, on met des morceaux d'herbe que on fixe. Mais c'est incroyable parce que et il existe des images de ce genre de procédé.
Oui, tout à fait. De toute façon, tous ces protocoles qui ont été testés par nos porteurs de projet, ils sont documentés. Et le but, c'est de faire des publications scientifiques aussi pour vérifier quelles sont les techniques les plus efficientes et un peu low cost aussi, parce qu'il ne faut pas que ça coûte trop cher, dans la mesure où c'est des plongeurs qui effectuent ces opérations, ça peut vite faire monter les coûts. Donc voilà, l'idée c'est de trouver quelle va être la bonne technique pour restaurer l'herbier de façon efficace, efficiente, et avoir un herbier qui repart à la hausse.
Et ça, c'est à la disposition du grand public?
Bah, régulièrement, on publie surtout l'ensemble de nos projets, hein, quel que soit le programme, on publie des articles pour expliquer ce qu'on a fait et quelles étaient les techniques et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Oui, si vous suivez les actualités de la Fondation de la Mer, vous serez au courant de tous ces projets et des détails.
D'accord. Parce que, par exemple, ce système d'agrafage des plantes en profondeur, on n'a encore pas vraiment vu d'image dessus. Enfin, je suis d'assez près des documentaires existants sur l'océan.
Oui, il y a des images qui existent. Il y en a quelques-unes qui sont disponibles sur le site de la Fondation de la Mer dans la rubrique Actualité.
Redonnerai.
Fréquemment, on demande à nos porteurs de projets de nous faire des images pour pouvoir expliquer au grand public justement les techniques et expliquer aussi les enjeux et pourquoi c'est important de protéger ces écosystèmes. De faire comprendre à quel point on en dépend aussi.
Alors donc, si je résume, d'une part, vous les agrandissez, vous en plantez ou vous en greffez. Ensuite, vous les protégez, c'est éviter que les gens y aillent. Et puis, vous êtes engagé aujourd'hui dans un grand programme de cartographie.
Oui, alors il y a déjà un travail de cartographie qui a été fait dans le cadre de, enfin sur la partie Posidonie sur l'application Donia. Après, il y a des travaux de suivi de stations un peu partout dans le monde pour voir où en est l'état de l'herbier et comment il se comporte face au réchauffement climatique. Et par exemple, notre projet sur les terres australes françaises, c'est vraiment du suivi de l'état de santé d'écosystèmes. C'est des projets qui sont importants pour mettre à jour nos connaissances sur la résilience de ces écosystèmes-là et de voir comment ils résistent à la chaleur aussi.
Bien, alors la chaleur, et puis il y a tout un programme aussi qui est donc mené par l'Italie sur l'acidification de l'océan, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, est-ce que vous voyez un point encore extrêmement important pour notre public, pour le grand public, Muriel Baron?
Oui, ben en fait, il faut vraiment, moi j'invite les gens à mettre un masque, à aller explorer ces herbiers qui sont sur nos côtes. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour l'observer. Et puis, s'intéresser aussi à ces thématiques-là, parce que ces herbiers, ils nous rendent service aussi sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Ils vont être capables de capter certains polluants, ils vont être capables de créer de l'oxygène. Donc, aussi, c'est notre ressource en protéines animales. Hein. Dans la mesure où ils hébergent énormément d'espèces, c'est des réservoirs. Il faut le voir comme des prairies sous-marines à découvrir et tout aussi intéressantes que d'autres écosystèmes qu'on connaît un peu plus, comme les récifs coralliens. C'est un petit peu moins coloré, mais c'est tout aussi intéressant.
Bien, écoutez, Muriel Baron, je vous remercie. Je crois qu'effectivement, on aura donné à voir aujourd'hui, ou en tout cas à imaginer davantage le rôle de ces herbiers qui parfois sont mal aimés, à tort. Hein. Et donc, je vous souhaite beaucoup de soleil pour ce week-end et puis pour les autres qui viennent, afin d'aller découvrir toutes ces merveilles de la mer.
Merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.